Alors bonjour tout le monde, bon matin en ce jeudi 10 septembre, Christiane Campagnan avec vous. Alors pour les auditeurs habitués d'ouvrir leur appareil Internet ou leur appareil télé pour écouter Canal M à cette heure-ci, qui est habitué d'écouter l'émission Kiosque, eh bien c'est la nouvelle émission, les voies de service qui existe depuis mardi dernier. Et puis c'est ma première aujourd'hui, alors une première pour moi, une première pour Rémi Hermoso aussi à la mise en onde. Alors, c'est une fusion des émissions Kiosque et Au quotidien pendant les trois prochaines heures où différentes voies de service vont se joindre à moi en studio pour vous renseigner, pour vous lire différents textes. Dans mon cas, je ferai, comme d'habitude, le tour de l'actualité. Et à divers moments, les bénévoles se joindront à moi pour vous lire des textes sur différents thèmes tirés des magazines. Ce matin, un peu d'élections, mais aussi beaucoup de Madonna dans le volet culturel, oui. Et de la musique classique, on est dans les extrêmes ce matin. On vous parlera Vague Rose après Vague Orange. On vous parlera de la STM, de l'inspecteur viral, de Clinique sans médecin. Et on aura de l'information internationale avec l'aide de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, vraiment très bien. Y a Thibault qui va se joindre à moi tout à l'heure pour vous en parler. Alors, tout ça aujourd'hui à l'émission Les voies de service. Alors aujourd'hui, en ce mardi 10 septembre, Rémi. Bonjour Rémi.
Allô.
Allô, ça va bien?
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on souligne aujourd'hui en ce 10 septembre du côté des anniversaires et des éphémérides?
En 2008, on souligne le décès de l'ancien sénateur et constitutionnaliste canadien Gérard Beaudoin, à l'âge de 79 ans. En 2012, la Cour supérieure a accordé une injonction au gouvernement du Québec pour empêcher la destruction des données du Registre national des armes d'épaule.
Une saga qui n'était pas finie à ce moment-là, hein, qui a continué à se prolonger par la suite.
En 95, au terme de la course de Laguna Seca, en Californie, le pilote Jacques Villeneuve devient champion de la saison en IndyCar. En 89, la Hongrie communiste, qui avait ouvert en mai sa frontière avec l'Autriche, laisse passer en une seule journée 20 000 Allemands de l'Est qui contournent le rideau de fer.
Les passages à travers la Hongrie, on se croirait dans l'actualité.
C'est ça, c'est la plus grosse vague migratoire depuis, je pense, cet événement-là qui se passe en ce moment. En 1977, à la prison des Baumettes de Marseille, Hamida Djamboudi, Jan Doubi, est le dernier condamné guillotiné en France. Fait que c'était le dernier prisonnier à recevoir la peine de mort. Le Portugal reconnaît l'indépendance de la Guinée-Bissau en 74. En 59, à Trois-Rivières, Maurice Duplessis est inhumé.
Ah, Maurice. Je ne sais pas si... on dit souvent, on se demande si un tel se retourne dans sa tombe, là. Suite à la recommandation de Lucien Robillard de rapatrier les impôts à Ottawa, parce que c'est une œuvre de Maurice Duplessis dans son souci d'indépendance. Il n'était pas indépendantiste, c'était pas d'époque, mais dans son souci d'autonomie par rapport à Ottawa, que le Québec ait ses propres impôts sur le revenu traité par Québec. Et on lui doit aussi le drapeau du Québec avant que le Canada ait son propre drapeau.
Oh, ben merci de m'instruire parce que je ne savais pas du tout qui c'était.
Pour être honnête. Faut que ce soit en utilité d'animer avec une historienne de formation.
J'apprends en direct, c'est parfait. La Royal Air Force, en 1942, a mené son plus gros raid de la guerre avec 476 avions qui ont bombardé Düsseldorf. Les bombes allemandes, en 1940, ont endommagé Buckingham Palace. Le Canada a déclaré la guerre à l'Allemagne en 1939. Je ne savais pas non plus.
Ah, mais est-ce que tu sais que c'était la première fois que le Canada déclarait la guerre? Dans les conflits mondiaux, lors de la Première Guerre mondiale, le Canada était encore un dominion de l'Angleterre. Et donc, ça s'était fait automatiquement dès que l'Angleterre avait déclaré la guerre. Tandis qu'entre les deux, il y avait eu le statut de Westminster et nous étions désormais indépendants. C'est un anniversaire qu'on fête jamais.
Je ne pensais pas que j'apprendrais autant de choses avec cette nouvelle émission.
Bien, merci beaucoup, Rémi, pour ces éphémérides. Et dans quelques instants, on passe aux actualités avec la presse. Alors, en une de la presse aujourd'hui, bien, tout d'abord, il y a ce dossier dans la presse qui est une exclusivité, je pense, sur la crise d'Oka. Québec était divisé. Les ministres du gouvernement Bourassa ne s'entendaient pas sur les mesures à prendre pour régler la crise de l'été 1990, révèlent les délibérations qui viennent d'être rendues publiques. Mais ils n'ont jamais sous-estimé les risques d'une escalade de la violence, certains ayant craint que les Mohawks ne fassent sauter le pont Mercier. Il y a plusieurs pages de consacrées à ça dans la presse, mais je ne vais pas vous lire ce matin parce que c'était vraiment, il n'y avait pas de texte qui résumait. Il y avait vraiment strictement, on étalait une chronologie jour par jour. J'imagine que dans les prochains jours, il y aura des textes de synthèse et des analyses qui pourront vous être lus par Clotilde. Yves Boisvert, le gouvernement Couillard croit-il à l'éducation? L'Université québécoise perd du terrain à la vitesse grand V, mais apparemment, tout le monde s'en fout, écrit le chroniqueur que je vous lirai dans quelques instants. Madonna au Centre Bell, un brin de sagesse. Les opinions sont divisées sur Madonna. On va lire ça tout à l'heure dans le volet culturel. Alcool, les deux Montréal, les francophones boivent deux fois plus que les non-francophones. Je reviendrai là-dessus. J'ai tout un volet dédié à la boisson ce matin parce que c'est la chronique bière dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Et il paraît que la chaleur a été bonne pour les vignobles de l'Estrie. Alors, on vous lira tout ça un peu plus tard. Exportation illégale de médicaments, la consul de Syrie épinglée. La consul honoraire de la Syrie à Montréal, copropriétaire des quatre succursales Jean Coutu dans l'ouest de l'île, plaide coupable à trois chefs d'accusation devant le conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens. Elle est consul et pharmacienne, c'est quand même particulier. Élection fédérale 2015, les pubs négatives déferlent. Le Parti conservateur et le NPD s'attaquent dans des vidéos acerbes. Et après la vague orange, une vague rose. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un parti politique a réussi à recruter presque autant de femmes que d'hommes au sein de son équipe de candidats. Je vous lirai ça dans quelques instants, mais je vais commencer avec la chronique de Yves Boisvert. Le gouvernement Couillard croit-il à l'éducation? On s'émeut depuis un an du fait que l'école publique se fait pressurer et avec raison. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la chaîne de l'éducation, l'Université québécoise perd du terrain à la vitesse grand V, mais apparemment, tout le monde s'en fout. Prenons une base de comparaison. En 2014, UBC, l'Université de Colombie-Britannique, a dépensé 15 102 $ par étudiant. L'Université de Montréal, 9 931 $. Laval et Sherbrooke encore moins, McGill a atteint 11 000 $ grâce à un fonds de dotation bien garni. Si UBC dispose de plus de 50 % de plus que moi, comment voulez-vous que je les concurrence? C'est carrément impossible, me dit le recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton. D'un côté, les droits de scolarité n'ont pas augmenté. À 2 800 $, ils sont à 47 % de la moyenne canadienne de 6 000 $, disait Statistique Canada hier. Vu la crise de 2012, on comprend que ça ne bougera pas de sitôt. De l'autre côté, le gouvernement péquiste comme libéral a imposé de nouvelles compressions budgétaires à toutes les universités. Si bien qu'au lieu de combler le sous-financement des universités du Québec, on a accru l'écart. L'Université de Montréal, par exemple, fonctionne avec 57 millions de moins par année sur un budget de 700 millions. Pendant ce temps-là, d'autres sociétés investissent massivement dans le savoir. Avec de moins en moins de ressources, je ne peux tout simplement pas maintenir la qualité et la quantité des diplômes, dit le recteur Breton. Le classement international n'est pas une bible, mais une indication. Il verra son établissement perdre des rangs cette année. Bref, non seulement le gouvernement a renié le sous-financement des universités, qui faisait consensus il y a 5 ans, mais il a aggravé la situation. On a des diplômes « made in Québec », mais bientôt « good for Quebec only », dit le recteur, qui se désole de l'apathie de la société québécoise qui semble insouciante. Le déclin est invisible de loin, mais à Sherbrooke, une centaine de postes de professeurs ne sont pas pourvus. À Montréal, les postes sont pourvus, mais le personnel administratif ou de soutien n'est pas remplacé. Les ouvrages récents ne sont pas achetés. L'UQAM vit de plus en plus, vit en plus une baisse des demandes d'admission. La semaine dernière, le recteur Robert Proulx attribuait cette baisse aux troubles du printemps. Ce ne serait pas illogique, mais la grève a été déclenchée le 21 mars, 3 semaines après la date limite des demandes d'admission le 1er mars. Le recteur n'a pas parlé des inscriptions. Et l'on comprend mal d'où il tire ses conclusions sur les manques à gagner s'il n'en connaît pas le nombre exact. Les syndicats contestent donc ses conclusions. Mais tout cela ne change rien à l'affaire. Ce n'est pas l'université qui a adopté une politique d'austérité, c'est le gouvernement qui lui a refilé. Pendant ce temps-là, le financement de la recherche par les organismes fédéraux est de plus en plus soumis à des critères pratiques. La recherche doit mener directement à une application, à un développement, sinon à une entreprise. On veut bien que toute recherche ne soit pas pertinente ou bien avisée, mais le rôle de l'université est le développement de la recherche fondamentale, dit Yves Boisvert. Ça ne peut avoir lieu nulle part ailleurs. Et malgré tout ce qu'on peut espérer des philanthropes désintéressés, ça passe par un financement public. Revenons à Québec. Politiquement, il n'y a pas beaucoup à perdre à serrer la vis aux universités, on dirait bien. Chaque lamentation de recteur est vite enterrée par une histoire de construction, d'indemnité de départ ou de note de frais. C'est pourtant là que s'invente le Québec de demain. Si ce gouvernement croit vraiment au développement du Québec, il n'a tout simplement pas le droit de laisser les universités du Québec sombrer tranquillement mais sûrement dans la médiocrité. Pas plus qu'il ne peut laisser l'école publique à l'abandon. Mais encore faudrait-il qu'il nous convainque qu'il a une vision de l'éducation et pas seulement un cahier de charges du Conseil du Trésor. Sous la plume de Joël-Denis Bellavance du bureau d'Ottawa de la presse, un article sur les élections fédérales qui est intitulé « Une vague rose au Parlement? » Point d'interrogation. Après la vague orange de 2011 au Québec, pourrait-on assister à une vague rose au Parlement canadien lors des élections du 19 octobre 2015? Pour la première fois dans l'histoire du pays, un parti politique a réussi à recruter presque autant de femmes que d'hommes au sein de son équipe de candidats. Et pour la première fois de son histoire, ce parti, le NPD, a autant de chances que les autres formations politiques de prendre les commandes du pouvoir à Ottawa à moins de 6 semaines du vote si l'on se fie à une panoplie de sondages réalisés au cours des dernières semaines. Selon un des comptes effectués par le site Pundit's Guide, le NPD est le parti qui compte, et de loin, le plus grand nombre de femmes au sein de son équipe de candidats, soit 147 candidates sur les 336 candidats qui ont été désignés, pour une moyenne de 43,8. La Chambre des communes comptera 338 sièges après les élections fédérales, soit 30 de plus qu'au dernier scrutin. Le Parti vert arrive au deuxième rang, bien qu'il lui reste encore près de 90 circonscriptions où il doit dénicher un candidat, 81 femmes sur 248 candidats désignés, pour une proportion de 32,7. Le Parti libéral suit de très près. On dénombre 104 femmes qui portent les couleurs du parti de Justin Trudeau sur 333 candidats désignés, ce qui donne une proportion de 31,2. Le Bloc québécois compte 22 femmes sur 78 candidats, soit 28,2, tandis que le Parti conservateur au pouvoir depuis 2006 compte seulement 64 femmes parmi son équipe de 323 candidats choisis, ce qui représente une proportion de 19,8. Au dernier scrutin, un nombre record de 76 femmes ont été élues à la Chambre des communes, 8 de plus qu'aux élections de 2008, portant ainsi la proportion à 24,7 des sièges occupés par la gent féminine. La moitié de ces femmes, 38, ont été élues sous la bannière du NPD qui comptait 40% de femmes parmi ses candidats en 2011. De l'avis de plusieurs observateurs, une présence accrue des femmes à la Chambre des communes permettrait d'améliorer la qualité des débats. Depuis son entrée aux communes en 2011, le leader du Parti vert, Elisabeth May, la seule femme à la tête d'un parti politique sur la scène fédérale, a souvent rappelé ses collègues à l'ordre quand ils sombrent ensuite dans l'insulte ou l'enflure verbale. Cela explique peut-être pourquoi elle a été choisie parmi les parlementaires s'étant le plus illustrée durant l'année par le magazine Maclean's en 2012, 2013 et 2014. Alors, normalement, à cette heure-ci, c'est l'heure où je viens rejoindre Clotilde pour lui parler de médias sociaux, soit de ce qui se passe sur les médias sociaux ou de nouvelles concernant les médias sociaux. Alors aujourd'hui, ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous présenter une rubrique du journal Métro, qu'on peut aussi trouver à journalmétro.com, c'est Jeff Yates, surnommé l'inspecteur viral, qui prend des rumeurs qui circulent sur Internet, des nouvelles qui sont virales, mais qui souvent sont fausses ou basées sur de fausses prémices ou alors incomplètes. Alors, je vous le présente ce matin et je vais vous lire un ou deux de ces textes. Alors, tout d'abord, évidemment, on revient encore à cette histoire reliée à cette image troublante du petit Aylan Kurdi, parce que... Comme le dit Jeff Yates, désolé de vous replonger encore dans ces images troublantes à lever le cœur, mais certaines personnes sur Internet tentent de les utiliser pour faire mousser une grande conspiration médiatique. Éric Duhaime ne sait peut-être plus qui croire, mais quoi qu'il en soit, cette photo n'est aucunement la preuve d'une calomnie, comme tente de faire croire le lien qu'il a partagé récemment. Les amateurs de conspiration crient à la mise en scène, puisque cette photo ne semble pas avoir été prise dans le même lieu que celle tristement célèbre, montant le petit Aylan Kurdi mort-noyé alors qu'il tentait de fuir la Turquie pour rejoindre le Canada. On parle de la photo transmise, entre autres, par Éric Duhaime. Voici l'endroit exact où a été retrouvé le corps d'Aylan, déclare-t-on. Le corps a ensuite été déplacé par les photographes turcs dans un endroit plus photogénique et mis dans une position plus dramatique afin de jouer sur l'émotion de l'opinion publique internationale, peut-on lire dans l'article partagé par M. Duhem. La photo en question n'a pas été prise au même endroit que celle d'Eylan Kurdi. Elles ont été prises 100 mètres plus loin. Parce que cette photo ne montre pas le cadavre d'Eylan, mais de son grand frère, Galip, comme l'ont fait remarquer plusieurs médias. La photographe en question, Nilüfer Demir, l'a confirmé à plusieurs reprises. Si vous cliquez sur la photo, vous pouvez d'ailleurs voir une autre photo de Galip qui prouve que c'est bien lui qu'on voit dans la photo. Au lieu de susciter un profond dégoût pour cette crise abominable, une prise de conscience de l'ampleur du drame qui frappe la famille Kurdi, qui a perdu deux bambins et leur mère dans, cet incident, incident est vraiment un euphémisme ici, on l'utilise pour tenter de prouver des affabulations idiotes sur les méchants médias. Alors, c'était ce premier texte de Jeff Yates, l'inspecteur viral du journal Métro, que je voulais partager avec vous. Et je vais vous en lire aussi un deuxième qui dit « Non, Pegida Québec, cet homme n'est pas un djihadiste qui se fait passer pour un réfugié. » Le compte Facebook de Pegida Québec, qui est un groupe d'extrême droite là, du Québec, cherche à trouver toutes sortes d'excuses pour enfoncer son clou. Le Québec serait aux prises avec une crise d'islamisation, selon ce groupe. Et l'inspecteur viral faisait remarquer récemment que l'engouement au Québec pour le bacon ferait croire que non. Et chercher l'erreur, hier, en fait, ils ont mis deux photos de deux hommes, un avec des armes et l'autre d'un quelqu'un a fait une demande de réfugié, disant qu'il était un djihadiste. Et la vérité, selon l'inspecteur viral, c'est que Pegida Québec croit que toute personne qui a l'air musulmane et qui tient une arme à feu est automatiquement un djihadiste. La photo montre en fait Layth al-Saleh, un ancien rebelle syrien qui était membre de l'armée syrienne libre, une armée rebelle opposée au gouvernement du président Bachar al-Assad et qui se caractérise pour l'essentiel par son nationalisme arabe et son objectif démocratique, au contraire des brigades salafistes et djihadistes. Alors, je ne saurais trop vous recommander ce blog de M. Jeff Yates dans le journal Métro. Bon, je vous rappelle qu'il se nomme l'inspecteur viral et qui vous permet souvent de découvrir que les photos, par exemple, d'un pont fissuré ne sont pas celles du pont Champlain. C'est pas toujours aussi grave que les questions que je mentionnais aujourd'hui, mais je ne saurais quand même trop vous recommander ce blog de l'inspecteur viral. Il y a eu un petit délai, je cherchais avec panique le dossier du journal Le Devoir alors que je l'avais déjà préparé. J'étais trop préparée. Voilà ce qui vient d'arriver. Alors voilà, aujourd'hui, en une du Devoir. Tout d'abord, on montre, il y a une photo de deux femmes en train de manifester les bras en l'air qui ont fait une manifestation avec Amnesty International pour l'accueil de réfugiés. Et on titre aussi la série Tourmente Harper, la crise des migrants s'incruste dans la campagne, s'incruste, un texte d'Hélène Buzetti et Marie Vastel, qui sont les correspondantes parlementaires à Ottawa. Ensuite, riposte juridique en vue pour sauver les élections scolaires, sous la plume de Marco Belair-Cirino. Côté théâtre, Le Page illumine la rentrée parisienne, un texte de Christian Rioux, correspondant à Paris du Devoir. Télévision en direct de l'urgence. Au terme d'une année où les médecins ont été doublement écorchés par les déclarations du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, et ses projets de loi controversés, la nouvelle série documentaire de Garde 24/7 prend le pouls d'une profession en quête de reconnaissance. Aussi, Opinion sans médecin, Clinique sans médecin, c'est pas l'opinion du tout, Clinique sans médecin, des économies, mais toujours pas de financement, je vous lis ça dans quelques instants, et Transport pétrolier vers Belledune, Rimouski veut l'avis du BAP. Alors oui, ce matin, sous la plume d'Isabelle Porter, la correspondante à Québec du journal Le Devoir, Clinique sans médecin, le ministère de la Santé dit non pour l'instant. La Clinique sans médecin de Québec, CASBA, a permis au réseau de la Santé d'économiser 120 000 $ en un an, a appris Le Devoir. Mais le ministre de la Santé n'est pas encore prêt à lui donner une place dans le système. Ce n'est pas possible de l'intégrer au programme actuel, explique l'attaché de presse du ministre Gaétan Barrette, Joanne Beauvais. Le programme de financement des cliniques au Québec, les groupes de médecine familiale, les GMF, requièrent la présence d'un médecin, ce qui disqualifie de facto SABSA. La chronique SABSA signifie « Service à bas seuil d'accessibilité ». Rappelons que cette coopérative, basée dans le quartier Saint-Roch à Québec, repose sur le travail d'une infirmière praticienne spécialisée et d'une équipe de traitement de l'hépatite C. Première clinique sans médecin au Québec, elle offre des soins de santé de base à des centaines de patients souvent défavorisés et qui n'ont pas accès à un médecin de famille. L'attaché de presse du ministre précise qu'on n'exclut pas, dans l'avenir, de l'inclure au réseau de la santé, mais sous réserve de ne pas créer un réseau parallèle. Elle ajoute que le cabinet du ministre a hâte d'en savoir plus sur les résultats de la clinique qui doivent être rendus ce jeudi. Selon ce que Le Devoir a pu apprendre, la clinique a permis au réseau d'économiser 120 000 $ depuis octobre 2014. À l'heure actuelle, elle traite près de 1000 patients. Depuis son ouverture, elle fonctionne grâce à un appui financier de la Fédération interprofessionnelle de la santé, la FIC, de 150 000 $. L'entente prévoyait aussi qu'une recherche-action serait menée pour évaluer son impact sur le réseau. La recherche pilotée par la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval n'est pas complétée, mais des résultats préliminaires doivent être rendus publics ce jeudi. Selon ce que Le Devoir a appris, la FIC s'est engagée à soutenir financièrement la clinique d'ici à ce que la recherche soit complétée, mais le problème du financement récurrent du projet demeure. En entrevue, l'attaché de presse du ministre Barrette a aussi rappelé que SAPSA avait sollicité le CIUSS, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, pour obtenir du financement. La clinique sans médecin pourrait peut-être s'intégrer plus facilement au programme du centre qu'à ceux du ministère. Pendant ce temps, le modèle fait des petits. Il y a quelques mois, la FIC a lancé un second projet pilote de clinique sans médecin à Shenville, en Outaouais. La clinique serait toutefois toujours à la recherche d'une infirmière praticienne spécialisée. Toujours sous la plume d'Isabelle Porter à Québec, dans Le Devoir, héritage et aide sociale, le jugement fait réagir. Un groupe communautaire de la Mauricie et du centre du Québec enjoint aux prestataires de l'aide sociale privée de leur héritage de se faire entendre et d'interpeller les tribunaux. En gros, on leur dit de faire valoir leurs droits parce qu'ils sont coupés injustement, a résumé mercredi le directeur de Solidarité régionale d'aide et d'accompagnement pour la défense des droits en santé mentale, Centre du Québec Mauricie, le SRAD. L'organisme se fait le porte-voix de personnes bénéficiant de l'aide sociale avec une contrainte sévère à l'emploi, dont le chèque d'aide sociale a été coupé ces dernières années parce qu'ils avaient reçu un héritage. Or, plaide-t-il, la loi sur l'aide aux personnes et aux familles avait été modifiée en 2007 justement pour protéger ces personnes. Comme le rapportait Le Devoir la semaine dernière, le tribunal administratif a vivement critiqué cette façon de faire du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans une décision rendue en juillet. Ce jugement, dit le directeur du SRAD, donne à son organisme les munitions qu'il attendait pour agir, a-t-il expliqué en entrevue téléphonique. Lors d'une conférence de presse en matinée à Trois-Rivières, il a rendu public trois jugements du tribunal administratif, dont celui cité plus haut. Il fait valoir que c'est la pointe de l'iceberg, puisque la majorité des personnes touchées ne contestent pas les décisions. Son organisme a donc enjoint mercredi aux prestataires et à leurs familles de réclamer à leur agent qu'on leur remette leurs prestations et de porter leur cause devant le tribunal administratif par la suite, avec le soutien de l'aide juridique. Interpellé à ce propos, le cabinet du ministre Sam Ahmad répète les propos tenus récemment par le porte-parole de son ministère. L'ensemble est à l'étude, explique l'attaché de presse Salim Idrissi. Il ajoute que s'il n'y avait pas une sensibilité à ce sujet, ce ne serait pas étudié. La protectrice du citoyen Raymonde Saint-Germain interpelle le ministère depuis 2012 dans ce dossier. Dans son dernier rapport annuel, elle recommandait au gouvernement de modifier la loi et de rembourser les personnes dont les prestations avaient été coupées. Pour préciser, parce que ça touche des sujets dont on traite à Canalem, c'est que quand on a un enfant qui a une déficience intellectuelle, par exemple, on peut créer une fiducie testamentaire qui sera gérée par quelqu'un qu'on choisit pour assurer son avenir. Et malheureusement, ces personnes-là étaient punies par l'aide sociale quand c'était le cas. Et je voulais aussi en profiter pour dire que la protectrice du citoyen Raymonde Saint-Germain sera en entrevue à Canalem lors de la toute première de l'émission Point commun ce lundi 14 septembre à midi. Et juste rapidement, quelques mots de la chronique de Michel David qui nous dit l'austérité d'abord, que le poste de leader parlementaire soit le prix du ralliement de Bernard Drainville. Ou que Pierre-Carl Pelado ait voulu illustrer le renouveau qu'il souhaite. Il demeure que le député de Marie-Victorin était le meilleur candidat. Ayant lui-même eu l'occasion de goûter à la médecine de M. Drainville durant la course à la chefferie, le nouveau chef du PQ aurait été bien mal avisé de ne pas mettre ses talents à profit. M. Drainville est un souverainiste convaincu et un remarquable tribun qui peut parler de l'indépendance avec une grande passion. Mais il sait aussi que ce n'est pas ce qui pourrait permettre au PQ de gagner la prochaine élection. M. Pelado aura beau transformer le PQ en machine de guerre, c'est d'abord sur son bilan que le gouvernement Couillard sera le plus vulnérable, selon Michel David. Courtiser les militants péquistes en proposant d'entrée de jeu le report d'un éventuel référendum à un deuxième mandat était une erreur stratégique que M. Drainville a tenté de corriger tant bien que mal, mais il a maintenu du début à la fin que le nouveau chef du PQ devait d'abord et avant tout prendre la direction de la lutte contre l'austérité. À entendre M. Pelado mercredi à l'issue du caucus de ses députés, lui-même semble maintenant en être convaincu. L'opposition officielle ne peut pas combattre l'austérité en faisant abstraction des syndicats du secteur public qui sont sur la ligne de front et qui ont fait la lutte contre les compressions budgétaires leur cheval de bataille dans les négociations, ajoute plus loin M. David, pour le renouvellement des conventions collectives. L'arrivée de M. Pelado, dont la conversion à la social-démocratie et aux vertus du syndicalisme en laisse plusieurs sceptiques, on se souvient du lock-out du Journal de Montréal, a jeté un froid sur la relation privilégiée que le PQ a entretenue avec le monde syndical depuis près d'un demi-siècle, malgré d'inévitables périodes de friction. Son refus d'appuyer les centrales syndicales dans le bras de fer avec le gouvernement n'était pas de nature à favoriser un rapprochement. Le PQ enverrait cependant un très mauvais signal à sa base militante, ajoute Michel David, s'il maintenait cette position. On cite ici Jacques Létourneau. Le PQ enverra un très mauvais signal à sa base militante, a souligné le président de la CSN, Jacques Létourneau. L'affaire est délicate, dit M. David. Il est vrai que les syndiqués demeurent nombreux dans les rangs péquistes. Il est tout aussi manifeste que les demandes salariales du Front commun paraissent excessives aux yeux d'une grande partie de la population. Alors, c'était un extrait de ce très long texte de Michel David dans Le Devoir ce matin. On se retrouve après une petite pause, il y aura promo et musicale, voilà, et où là vous verrez encore plus de quoi ça auront l'air les voix publiques, puisque d'autres voix vont se joindre à moi dans quelques instants. Les voix de service, hein? Les voix de service, mesdames et messieurs.
Les voies de service avec Christiane Compagna.
Tu me quisiste, ma musa, y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise, que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo, que de ti me separé, me traicionaste, ma musa, que triste yo me quedé. Devolviste el retrato que en prueba de amor te di y me pediste tus cartas que en ellas decías así: te quiero mi muchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Casa se dieron cuenta que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de tu amor. Como yo te quise a ti, mamusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie. Nadie te querrá.
Por un poquito de tiempo que de ti me separé,
como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Me traicionaste, Macusa, ay, qué triste yo me quedé,
como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, nadie, nadie te querrá.
Dulce es el recuerdo de
pero nadie, nadie te querrá.
Padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie,
Alors, c'était le Buena Vista Social Club qui nous amenait à cette deuxième heure des voix de service que j'ai un petit peu rebaptisée à la fin de la première demi-heure. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette expression-là, voix publique, prise dans la tête depuis qu'on a créé l'émission. Ça devait être le nom d'autre chose. Je pensais que c'était une émission RTV, mais là, c'est les voix humaines. On n'est pas plus avancé. Je ne sais pas d'où vient mon lapsus. On va demander à M. Freud. Alors, bonjour, je souhaite la bienvenue. Donc, je vais vous laisser vous présenter, tenez chacun leur tour.
Bonjour, donc Christine Boucard à l'appareil, au micro, pardon. Bonjour à tous, je découvre une nouvelle équipe.
Bonjour, Yvan Deslauriers.
Bonjour, Marie Lalande. Alors, on est tous en découverte d'une nouvelle équipe.
Oui, et une équipe qui va bouger dans les prochaines semaines. Il y a des gens qui vont retourner à d'autres journées, quand même, bienvenue aux voix de service. Et peut-être on va faire le tour des sujets dont vous allez nous parler aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Christine.
Alors, en ce qui me concerne, on va parler histoire, art, expo, sculpture, surtout avec l'expo de David Laltmetsch. Eddie, êtes-vous allé? Ça se termine le 13 septembre, c'est le moment, c'est le moment d'y aller. Ensuite, on parlera de photos. Il y a le mois de la photo qui s'ouvre aujourd'hui même.
Exact.
Mais je parlerai surtout du WordPress photo qui est encore là avec des sujets importants d'actualité.
Oui, et puis des très belles photos, bien souvent.
Oui.
Moi, je vais vous parler du monde de l'enfance, en fait, ce matin particulièrement, de façon de faire pour aider les tout-petits à développer leur estime d'eux-mêmes, dans un premier temps. Ensuite, je vais vous parler d'une rentrée scolaire, mais d'un point de vue un petit peu plus dramatique pour un grand nombre d'enfants ailleurs dans le monde. Et le monde des animaux m'intéresse aussi. Alors, je vais vous parler des guêpes et de nids de guêpes.
De nids de guêpes.
Ouais.
Et c'est le temps de l'année où ils viennent s'asseoir sur nos pique-niques.
Voilà.
Assez régulièrement. Voilà. Et Yvan, vous allez nous parler de quoi?
Oui, moi, de mon côté, je suis un petit peu maniaque de vélo. Alors, je vous raconte une histoire de vélo, mais dans un contexte très, très, très spécial. C'est une famille qui a décidé de faire un long voyage à vélo. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, c'est assez particulier. Et en deuxième partie, je vous raconte quelque chose par rapport à la lumière et le fleuve.
Alors, tout ça dans quelques instants, au votre service. Ah, si vous nous écoutiez l'été dernier, vous êtes peut-être en train de reconnaître, c'est le thème de Midi Martini. Je m'attends toujours à entendre Midi Martini quand cette pièce le joue. Mais maintenant, ça présente nos textes de bénévoles aux voix de service et on commence avec Christine.
Alors, donc, David Laltmetsch, l'exposition de l'été. En fait, c'est un artiste qui fait bouger les foules, qui ne laisse pas indifférent. J'ai pu le voir au musée en y allant. Il est encore temps donc de voir l'expo, ça se termine ce dimanche. David Laltmetsch est un Montréalais, il est né à Montréal en 74, il a 41 ans. Il a un bac en art visuel de l'UQAM en 98, une maîtrise à New York. Et il a représenté le Canada à la Biennale de Venise dans les années 2006-2007. Alors David Laltmetsch, c'est qui? C'est un des artistes québécois les plus cotés au monde, nous dit Caroline Fortin dans un article de Châtelaine de juillet 2015. Loup-garou, homme-oiseau, corps troué, fruits en résine, animaux empaillés, miroir éclaté, bois, avec des éléments disparates. Le sculpteur, donc, établi aujourd'hui à New York, crée des œuvres étranges, étonnantes, fascinantes, dérangeantes. Et Caroline Fortin l'a rencontré, je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Et comment s'appelle-t-elle? Carole Bellil nous dit dans le magazine du Musée d'art contemporain de Montréal, où se trouve l'expo, spectaculaire et minutieusement fabriqué de multiples éléments et matériaux, les sculptures de David Almetsch empruntent à une esthétique de l'hybride et de l'accumulation pour évoquer les forces vives du dépérissement et de la régénération et pour installer une dialectique métaphorique entre le monde humain et le monde animal. Alors tout ça semble peut-être bien savant, mais non, il s'agit bien effectivement de vaser bien entre le monde animal et le monde humain. Et voici une interview, une entrevue qu'a fait Émilie Grandjean avec David Almetsch. Et ça, c'est dans la Vie des arts d'été 2015. Émilie Grandjean, la question qu'elle pose après le Musée d'art moderne de la ville de Paris, le Luxembourg, le Musée d'art contemporain de Montréal, accueille ton exposition rétrospective, Flux. Peux-tu nous parler en quelques mots de l'exposition et de pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, l'artiste lui répond, l'exposition Flux présente des œuvres produites depuis les 15 dernières années. Le mot Flux vient du titre de la pièce la plus importante de l'exposition, The Flux and the Paddle, 2014. Ceci étant dû, Le flux est quelque chose de constant dans mon travail. On y retrouve sans cesse l'idée d'écoulement, de cycle, de circulation, d'énergie. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en y allant. C'est l'œuvre considérée comme maîtresse. Elle est immense. C'est une œuvre monumentale qui est à la fin de l'exposition. Ton travail de sculpture, demande Émilie Grandjean, est très intuitif. Tu tritures et modèles la matière dans un corps à corps. Puisque ta main laisse son empreinte dans la matière en même temps qu'elle la façonne, peux-tu nous expliquer ton processus de création? Conceptuellement, répond l'artiste, chaque sculpture naît de la sculpture précédente. Lorsque je travaille sur une sculpture, je m'arrange toujours pour qu'elle inclue toutes sortes de potentiels. Je laisse aussi la place aux accidents et aux imprévus. J'isole des idées nouvelles et je bâtis la prochaine sculpture autour d'elle. Je travaille sur la nouvelle œuvre avec d'autres matériaux qui ont leurs propres règles. Ils ont une présence que je peux plus ou moins contrôler. Ce sont les matériaux qui dictent la forme de la sculpture. Mmh. Et effectivement, elle parle de traces et c'est assez... n'importe quel visiteur va avoir tout de suite ses mains, ses traces de l'artiste qui sont laissées dans les œuvres qui ont été faites in situ. C'est assez impressionnant. Et... mine de rien, la semaine prochaine, je parlerai sans doute de l'exposition de Rodin. La trace est très présente aussi chez Rodin, donc la sculpture est à l'honneur en ce moment à Montréal. Et vraiment, je vous invite à aller voir l'expo, à aller voir.
Est-ce que vous savez si le Musée d'art contemporain offre des visites adaptées pour les personnes non-voyantes? Parce que pour Rodin, il y en a avec des reproductions.
Effectivement, il y a une salle dans Rodin où il y a deux œuvres qui peuvent être touchées, en résine, etc. Pour le MAG, non, mais par contre, je ne le sais pas. En revanche, je pense qu'il y a moyen peut-être de se faire accompagner, de se faire expliquer les œuvres, parce qu'une chose très importante, c'est qu'il y a des légendes, il y a des choses très importantes qui sont écrites de l'artiste et de la même façon que le dit cette interview. La sculpture, elle grandit, elle se reproduit pour David Almetsch, quand je poursuis l'entrevue. Émilie Grandjean demande, il y a dans tes sculptures un intérêt marqué pour les matières organiques, que ce soit la forme animale, végétale ou minérale. À l'instar du biologiste, le vivant te fascine de toute évidence, peut-être même plus que le sacré. Et que recherches-tu dans cette exploration du vivant? Et lorsque je suis entrée à l'université, nous dit-il, c'était en tant que peintre à Paris, en tant que peintre. Puis j'ai suivi un cours obligatoire de sculpture pour faire ma première sculpture. Alors, je ne sais pas si les sculpteurs vont être intéressés. J'ai posé un objet sur une table. C'est devenu très clair pour moi que ce que la sculpture avait de plus extraordinaire et ce qui la différencie de toutes les autres mes médiums, c'est qu'elle existait dans un espace réel. Elle respire le même air que toi et moi. Et cela fait en sorte qu'elle est capable d'exister de la même façon qu'un corps peut exister dans l'espace. En tant que sculpteur, tout ce que je peux faire, c'est essayer de faire des objets capables d'exister le plus possible de la même façon qu'un corps existe dans l'espace. Alors, c'est pour cela que je m'intéresse beaucoup aux vivants, aux objets capables de produire de l'énergie comme un cœur peut produire de l'énergie. Et il dit, à travers cela, je suggère que la sculpture est en perpétuelle transformation. Elle grandit, elle se reproduit. Et c'est vrai, vous allez voir, dans la transparence,
je vais en fin de semaine, samedi.
Oui, vous allez être impressionné par cette façon qu'on a de rentrer dans les œuvres. En général, dans une sculpture, ce qui est intéressant, c'est de tourner autour, etc. Et le mouvement donc est très présent dans l'ensemble de l'œuvre, nous dit-il, et briser un miroir. Alors, il y a une chose importante. J'aimerais que tu nous parles, demande Émilie, de tes matériaux de prédilection. Alors, il utilise fréquemment le plexiglas et le miroir. Et lorsqu'il conçoit ses vitrines, ce qui l'intéresse, c'est de déployer une structure très légère, faite en fil. Il brise les miroirs à coups de marteau. Bref, donc tout ça, c'est tout un chapitre.
Ben, merci beaucoup. Alors, ça donne vraiment le goût d'aller visiter l'exposition. Alors, on poursuit avec...
Avec moi?
Avec Marie.
Alors, je vous lis un article qui a été publié sur le site de la presse le 30 août. Et c'est un article de Marie Allard dont le titre est « Aider les petits à avoir une bonne estime d'eux-mêmes ». De 3 à 6 ans, les enfants ne connaissent pas leurs valeurs. Les éditions du CHU Sainte-Justine rééditent le livre « Quand les tout-petits apprennent à s'estimer ». C'est un guide théorique et pratique visant à développer leur sentiment de confiance, d'appartenance, de connaissance d'eux-mêmes et de réussite. C'est un outil pour aider les enfants à être conscients qu'ils font des bons coups, explique son auteur Germain Duclos, qui est psychoéducateur et orthopédagogue québécois, sous forme de questions et de réponses. Alors, encore une fois, c'est une entrevue. On lui demande, vous écrivez qu'on ne peut parler d'une véritable estime de soi chez l'enfant avant l'âge de 7 ou 8 ans. Est-ce que c'est exact? Et il répond, oui, un enfant de 3-4 ans n'a pas encore développé de pensée critique. Demandez-lui, choisis le meilleur dessin que tu as fait. Pour lui, tous ses dessins sont beaux. C'est avec l'apparition de la pensée logique, de la pensée critique, qu'il peut poser un jugement. On lui demande, il est important de préparer les petits à avoir une bonne estime de soi si jeune. Et il répond, oui, l'enfant retient qu'il a fait quelque chose de beau, de bon. L'estime de soi, c'est reconnaître que j'ai des qualités, des forces, des compétences, même si je fais aussi face à des difficultés. Je vaux quelque chose comme personne, malgré les limites que je peux vivre. Ça n'enlève pas ma valeur. Il faut préparer les tout-petits à l'estime de soi en soulignant les bons coups. Autour de 7 ou 8 ans, l'enfant va récupérer ses expériences positives du passé pour poser des jugements positifs sur lui-même. On lui demande encore, est-ce qu'on doit répéter à son enfant qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est gentil, qu'il est intelligent? Et il répond, on peut le faire si ça nous tente, ça ne nuit pas. Mais on ne développe pas l'estime de soi comme ça. On ne dit pas « tu es un enfant débrouillard ». On va dire « tu te souviens quand tu es arrivé de l'école, la porte était fermée ou elle était barrée, tu es allé chercher la clé chez le voisin ». Alors, ces actions veulent dire « tu as été débrouillard ». C'est pas gratuit. Il reste que ce n'est pas le fait que l'enfant fasse un bon coup qui est important, c'est de le dire. Sinon, comment voulez-vous qu'il en soit conscient? Il faut que ça passe par la voie symbolique, c'est-à-dire le langage. Alors, on lui demande, à force d'insister sur l'estime de soi, est-ce qu'on n'a pas fait plein d'enfants rois? On parle beaucoup de ça, les enfants rois, maintenant. Et ce qu'il répond, c'est intéressant, c'est mal compris. L'estime de soi, ce n'est pas se surestimer. C'est un jugement qu'on porte sur soi-même. Quelle est ma valeur comme personne? C'est alimenté en premier par des adultes importants pour l'enfant, des parents, des éducateurs, des éducatrices en service de garde. Alors, Germain Duclos dit aux parents qu'il faut souligner les gestes positifs, mais aussi dire à l'enfant qu'il a des difficultés. Les difficultés, ce n'est pas un handicap, c'est un défi à relever. Quand l'enfant est conscient qu'il y a des points à améliorer, il peut faire le deuil de sa toute-puissance qu'il se perçoit comme ça. Autrement, ça fait un enfant roi. Alors, on propose dans le livre des activités à faire en garderie. Que peuvent faire les parents? Ça, c'est une question intéressante. Le soir, par exemple, après avoir bordé son enfant, on lui parle des gestes positifs qu'il a faits durant la journée. Tu as aidé ta petite sœur à trouver ses mitaines. Tu as aidé papa à mettre la table. Même si ce sont juste de petites choses, on valorise ses actions. Attention, vous aurez beau faire les 50 activités pour l'estime de soi, vous n'améliorerez pas l'estime de l'enfant si vous lui dites des mots qui blessent. T'es paresseux, t'es lent, t'es têtu, ça sabote l'estime de soi, surtout si ça vient d'une personne significative pour le petit. Ça, ça s'appelle de la violence verbale. Dans le mot « violence », il y a toujours un petit mot caché qui est le mot « viol ». La violence physique, c'est violer le corps de l'autre. C'est une intrusion agressive. La violence verbale, c'est violer l'amour-propre, le sentiment de la valeur chez l'enfant. Une dernière question, il est important de développer l'estime de soi des enfants pour prévenir le décrochage scolaire. Tout à fait. On ne peut prétendre motiver un jeune à relever un défi ou à réaliser de nouveaux apprentissages s'il considère qu'il ne vaut rien, s'il n'est pas conscient d'avoir une valeur comme personne. Le livre de M. Duclos, c'est un guide qui propose une cinquantaine d'activités testées pendant 3 ans au CPE Enfants des Neiges de Montréal pour aider le développement d'un sentiment de confiance, de connaissance de soi, d'appartenance et de réussite.
Alors, ben, moi, j'ai beaucoup appris, en tout cas, parce que c'est important de distinguer la théorie de « t'es bon » de « comment tu l'as été ».
Oui, oui, tout à fait.
Et on poursuit avec un texte sur le vélo.
Oui. De mon côté, je vous emmène dans un voyage étonnant. Le titre de l'article que je vous lis, c'est « L'éloge de la lenteur en famille ». C'est un article écrit par Gabriel Bélan et présenté dans la presse le 4 août dernier. Il y a un peu plus d'un an, un couple de Québécois a quitté Montréal. Il avait avec lui ses vélos, ses bagages et sa fille de 15 mois. Direction la Terre de Feu en Argentine. Maintenant rendu au Mexique, il pourrait rouler jusqu'en 2019. Voici le projet un peu fou de parents qui ne voulaient qu'une chose, voir grandir leur fille. Kayla est née le 4 février 2013 à Québec. Ce jour-là, raconte Marie-Ève Paiement, sa mère, le compte à rebours a commencé. Il n'était pas question de repeindre la chambre du bébé ou de chercher une garderie. Il fallait plutôt mettre de l'argent de côté. Il fallait se préparer à abandonner son emploi, à vendre ou à donner ses meubles, à quitter son appartement. Il fallait se préparer à partir en vélo pour des années. Il fallait se préparer à changer de vie. La naissance d'un enfant est la plupart du temps synonyme d'enracinement. Celle de Kayla a été le point de départ d'un voyage qui dure maintenant depuis 1 an et des poussières. On a gardé des souvenirs de famille et on a donné tout le reste. Quand on va revenir au Québec, ça va être un nouveau départ, raconte Marie-Ève Paiement, jointe dans une auberge de jeunesse de San Cristobal de Las Casas, dans le sud du Mexique. Il faut dire que les astres étaient alignés. Marie-Ève, 35 ans, a rencontré le père de Kayla il y a 10 ans maintenant. Carl Balzer, 40 ans, un Français adepte de cyclotourisme, alors en voyage au Québec. Il avait parcouru à deux roues l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le bassin méditerranéen. Quand on s'est rencontrés, il était justement en voyage à vélo. Finalement, il n'est jamais reparti. Carl l'a initié au cyclotourisme et elle a tout de suite aimé. Surtout la lenteur, dit-elle. Ils sont partis rouler en Espagne, au Portugal et au Maroc et sont revenus au Québec avec un projet à la fois clair et compliqué. Faire un enfant et traverser l'Amérique à vélo en famille. Kayla a mis 4 ans à naître, plus longtemps que prévu. Ils ont repoussé d'aussi longtemps leur projet de voyage. On voulait le faire en famille. On voulait profiter de chaque moment. La petite enfance, ça va vite, explique Marie-Ève. Je suis éducatrice. Des fois, je voyais les premiers pas d'un enfant à la garderie avant les parents. J'avais envie de voir les premières fois de ma fille, d'être avec elle. Le voyage me semblait le seul moyen de le faire. Il fallait au moins attendre que Kayla ait 1 an pour qu'elle puisse se tenir la tête toute seule dans la remorque, dit sa mère. Puis il a fallu attendre le printemps en Alaska, point de départ du périple. La petite avait finalement 15 mois. quand, le 3 mai 2014, ses parents et elle ont tout quitté. Dans l'avion, leur voisin de siège revenait d'une virée en vélo entre New York et Montréal. Il les a invités à coucher chez lui à Anchorage et ils se sont dit que c'était un bon présage. Depuis, la petite famille a roulé 9600 kilomètres.
Oh.
Elle a traversé le Canada, les États-Unis et presque l'entièreté du Mexique. Kayla a maintenant 2 ans et demi. Pour elle, l'adaptation au voyage n'a pas été difficile. Kayla, en fait, est nomade depuis toute petite. Je ne crois pas qu'elle se souvienne de sa vie d'avant. Pour elle, c'est son quotidien de se déplacer, de rencontrer des gens. Il y a une certaine routine. Il y a nous, ses parents, il y a les vélos, la tente. Mais son carré de sable, lui, change tous les jours. Cette traversée n'a rien d'une compétition. La famille roule lentement. Au départ, elle pensait arriver à Ushuaïa, à la Terre de Feu, en 2017. Maintenant, elle pense y arriver en 2019.
Mm-hmm.
Plus on avance dans ce voyage, plus on prend notre temps. On veut profiter de tout ce qu'on voit. Il y a eu un moment où on allait plus vite, mais le soir, on était plus fatigué et on avait moins de patience avec Kayla, dit sa mère. Ce n'était pas le but du voyage. On voyage à vélo pour aller lentement. On préfère être de bonne humeur. Le vélo est un mode de transport à la fois économique et écologique. C'est pour ça que Carl et elle l'ont choisi. Mais il n'y a pas que ça. Les gens sont curieux de voir une famille à vélo. Parfois, ils nous invitent à dormir chez eux, nous font à manger. On a croisé beaucoup de personnes très généreuses. Kayla, elle, au fil du voyage, a commencé à comprendre des phrases en anglais et en espagnol. Les parents profitent des moments avec elle. Ils ne regrettent pas leur choix. En entrevue, Marie-Ève Paiement ne semble pas angoissée le moins du monde devant l'inévitable retour à la vie normale et au dicta du travail. Elle profite du moment présent. La sensation de liberté est indescriptible. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. On décide chaque jour où on va. Il n'y a pas de contraintes. Si tout va bien, la famille atteindra la ville la plus australe du continent américain et du monde entre 2017 et 2019. Kayla aura alors vécu le plus clair de sa vie en voyage. Ses parents rentreront sans maison et sans boulot, mais avec des souvenirs pour encore bien des années. C'était l'article « Éloge de la lenteur en famille » écrit par Gabriel Bélan et présenté dans la presse le 4 août.
C'est des voyages qui peuvent amener du changement. Je connais un ancien actuaire fiscaliste qui, au retour d'un voyage d'un an en voilier avec sa famille, est devenu marchand de glace.
Et à propos... Oui.
Alors, il nous reste quelques minutes et je me demandais si Christine avait... On l'avait un peu interrompu tout à l'heure. Si vous restez des choses à dire sur votre expo.
En fait, je voudrais faire
aussi
le pont avec ce que vient de dire mon avis Yvan à propos de la lenteur et des enfants. Il se trouve que l'exposition d'Alvin Dalmetsch se visite lentement. Mmh. J'ai vu énormément de familles et d'enfants, de jeunes, moins jeunes, qui prenaient un plaisir incroyable et un intérêt incroyable à essayer de décortiquer visuellement. Alors visuellement, c'est pas que visuellement, puisque ça peut se faire expliquer. Il faut savoir que c'est la transparence, c'est des matériaux, c'est plein de choses. C'est fantastique. C'est la beauté, c'est la laideur qui s'entrecroisent. Et David Lanet, je disais, une broche en émeraude ressortira bien plus si elle est portée par un monstre. Alors, ça nous fait penser à la bête.
C'est assez déstabilisant.
Voilà, c'est déstabilisant, mais il y a des choses magnifiques. Il y a aussi sa sœur au visage troué. Il me disait à Caroline Fortin que, premièrement, j'adore ma sœur Sarah, mais j'ai un sens de l'humour pervers et j'aime choquer. Je l'avais averti avant de dévoiler la pièce et en fait, le portrait, c'est un visage, c'est son visage troué, mais c'est assez magnifique. Que vous pourrez le découvrir.
Mmh. Alors, rapidement, Marie.
Très rapidement, tout enfant atteint par le virus de la lecture est vacciné contre l'échec scolaire. Et c'est de Alexandre Jardin. C'est beau quand même. Hein?
C'est très beau, surtout que cette station est jumelée avec, jumelée avec un service du livre pour tous. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour suivre les sujets avec nos trois bénévoles. À tout à l'heure!
Voix de service avec Christiane Compagna.
Alors, nous sommes de retour aux voix de service et cette fois-ci, on avait terminé avec lui la dernière demi-heure et on va maintenant recommencer avec lui, M. Yvan Deslauriers. Vous nous présentez quoi cette fois-ci?
Cette fois-ci, je vous présente un article presque poétique. C'est dans une série d'articles sur la lumière. En 2015, c'est l'année internationale de la lumière. Et Monique Durand, qui est collaboratrice au Devoir, a produit une série d'articles, 8 articles. Et j'en ai lu quelques-uns déjà dans les semaines dernières. Je vous lis le 7e qui fait le lien entre les lumières et le fleuve. Et puis je vous invite peut-être à écouter cette lecture-là presque les yeux fermés. Alors, on est à la baie de Sept-Îles, le 26 juillet. Un énorme cargo rouge et blanc s'évanouit dans la brume. On ne discerne plus que la ligne vaporeuse de sa coque s'atténuant sur nos regards. Aucun moutonnement des vagues visibles, même s'il vente à écorner les bœufs. Ça y est, la masse de fer et de bois est disparue et toute la baie avec elle. Comment écrire sur les lumières du fleuve, sinon par petits éclats de fulgurance et fragments de souvenirs? Les lumières du Saint-Laurent sont aussi multiples et diverses que son long squelette d'eau s'évasant en estuaire, en golfe, puis fonçant tous azimuts vers l'océan, long squelette dont chaque vertèbre est une rivière. Composition géophysique incomparable d'eau douce dans son amont, d'eau saumâtre en aval de l'île d'Orléans, puis d'eau salée à partir de Tadoussac. Des marées ressenties aussi profondément qu'à Trois-Rivières. D'immenses étendues lacustres qui dilatent son cours, lac Saint-François, Saint-Louis, Saint-Pierre. Avec des rives dont l'urbanisation décroît au fur et à mesure qu'on va vers l'est. Des climats qui peuvent changer 10 fois par jour. Des brouillards, des averses de pluie, de neige, de grêle, des coups de vent et des calmes plats. Le Saint-Laurent a modélisé la façon dont le territoire québécois a été habité. Encore aujourd'hui, il attire et fixe la population, dit Louis-Aymon Hamelin, géographe québécois de réputation internationale. C'est un être définitoire et pas seulement un axe de transport. Être définitoire avec des cultures diverses de part et d'autre de ses rives. Rive Nord, Repentigny, Donnacona, Cap-Tourmente, Baie-Trinité, Rivière-au-Tonnerre, Blanc-Sablon. Rive Sud, Verchères, Baie-du-Fèvre, Saint-Jean-Port-Joli, Grosse-Roche, Mont-Louis, Petit-Cap. Autant d'univers, d'histoires, de phares dans la nuit et de types de luminosité diurne projetés dans les paysages. Les lumières du fleuve sont indissociables des humains qu'elles enveloppent et qui muent avec elles d'un rythme à un autre, d'une humeur à une autre. Côte sud, côte nord, soleil levant ou soleil couchant, les yeux droits dans l'épée de feu ou dans le décor flambant à contre-jour. Nous sommes faits des lumières de ce colosse fluvial au pied de vent qui s'en va s'abîmer dans l'Atlantique. Constitutif d'elles, lumières tantôt crues avec des ciels très hauts, tantôt plus diffuses dans des ciels voilés. Lumières d'hiver, presque aveuglantes, luminosité extrême, dit Louis-Edmond Hamelin. Lumière d'été, douce et claire, de printemps, un peu lactée, tirant sur le pastel, d'automne, mordorée. Elles nous ont façonnés, peuple au moral changeant, d'un seul coup d'œil à la fenêtre. Peuple vivant en dents de scie, excessif comme son climat, prompt aux réjouissances et à la dépression, passant de candeur à nostalgie comme le beau temps succède à la pluie, et la mer étale aux vagues déchaînées. Lumière folle avec un goût de liberté, grisaille avec un goût de cafard. C'est selon les jours, les saisons et les lieux. Fragment de souvenirs lumineux du Saint-Laurent. C'est Marguerite Agaspé qui ouvre sa cantine à la barre du jour et prépare sa pâte à crêpes. Simon, harnaché dans ses bottes qui lui montent jusqu'à la poitrine, lançant sa mouche au confluent de la moisie et du golfe, son minuscule appât volant dans la lumière mate. Le vieux Walter de Rivière-Madeleine, terminant la cuisson lente de sa vie, assis sur ses marches d'escalier au grand soleil. C'est un long héron bleu dans une flaque du fleuve à Cap-Santé où se mirent les premiers astres du soir. Un vol d'oies blanches sur Kamouraska, chacune comme une ampoule allumée dans l'azur. Un après-midi d'arc-en-ciel après la tempête, un bout de l'arc sorti du fleuve comme un monstre luminescent. C'est une terrasse au bord de l'eau dans la basse ville de Québec, où le couchant se reflète sur l'écaille des huîtres et les vers de Sancerre. C'est un matin de pluie au port de Montréal. L'âme étincelante du Saint-Laurent est un rideau de 1000 petites lumières qui tombent sur nos yeux. Retour à la baie de Sept-Îles en ce 26 juillet. Des trous de bleu élargissent à travers la brume. Les fumées se dissolvent. Le cargo rouge et blanc reparaît soudain. On pense que le soleil ne reviendra plus jamais sur le Saint-Laurent, que c'en est fini de la transparence, que la cécité sera notre lot à jamais. Et chaque fois, comme un petit miracle, on recouvre la vue. Le ciel s'entrouvre. Lumière et fleuve nous sont redonnés. Alors, c'était des extraits de « Fleuves lumineux », article que j'ai trouvé dans Le Devoir le 8 août et qui a été écrit par Monique Durand, qui était collaboratrice.
Ça donne le goût de partir en voyage.
Oui.
Et on poursuit avec Marie.
Oui, on s'en va ailleurs complètement. Alors, on parle beaucoup de rentrée scolaire actuellement. Et puis la rentrée scolaire, ça se vit pas de la même façon partout dans le monde. Alors, je vous amène, c'est un texte de l'AFP qui a été publié sur le site lemonde.fr le 3 septembre dernier. Plus de 13 millions d'enfants sont privés d'école cette année en raison des conflits qui font rage dans plusieurs pays du Moyen-Orient, indique le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'UNICEF, dans un rapport publié jeudi, le 3 septembre. L'organisation déplore une situation désastreuse. Le rapport de l'UNICEF porte sur 6 pays et territoires en guerre ou instables, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, les territoires palestiniens et le Soudan, ainsi que sur 3 pays accueillant un grand nombre de réfugiés syriens, la Jordanie, le Liban et la Turquie. L'impact destructeur des conflits est ressenti par les enfants dans toute la région, résume le directeur de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il ne s'agit pas seulement de dégâts matériels dans les écoles, mais aussi du désespoir ressenti par une génération d'écoliers qui voient leur espoir et leur avenir brisés. Plus de 8850 écoles en Syrie, en Irak, au Yémen et en Libye ne peuvent plus accueillir les élèves parce qu'elles ont été endommagées ou détruites, abritent des familles déplacées ou sont occupées par des belligérants. Dans la bande de Gaza, les enfants utilisent les établissements scolaires comme refuge parce que leurs maisons ont été détruites. Il en est de même en Irak, où des écoles accueillent quelques-uns des 3 millions de déplacés contraints de fuir leur ville affectée par les violences. En Syrie, au Soudan et au Yémen, ainsi que dans une grande partie de la Libye, les parents n'envoient plus leurs enfants à l'école par crainte pour leur sécurité, ajoute l'UNICEF. Aller à l'école comporte plein de dangers pour de nombreux enfants, souligne l'organisation, qui a dénombré 214 attaques contre des établissements scolaires dans la région l'an dernier. En Syrie, le conflit a détruit 2 décennies de travail en faveur de l'élargissement de l'accès à l'éducation. Ça, c'est troublant. Mmh. Il a déplacé 7,6 millions de personnes à l'intérieur du pays et contraint plus de 4 millions d'autres à se réfugier à l'étranger. Dans les pays voisins, plus de 700 000 enfants syriens ne sont pas à l'école, en particulier en Turquie et au Liban, où les écoles sont surpeuplées et manquent de moyens. Alors, quand nos enfants rechignent à prendre l'autobus scolaire le matin, mettons qu'on a un point de vue différent.
Tout à fait. Mm.
Alors, changement de contexte.
Changement de registre.
Changement de registre, complètement.
Okay.
Elles sont capables d'envenimer un pique-nique au soleil au point de forcer les convives à rentrer. Menaçantes et incommodantes, les guêpes représentent aussi un réel danger pour certaines personnes qui sont allergiques à leur venin. On remarque une augmentation de leur nombre près de la maison. Il y a peut-être un nid et si c'est le cas, il faut agir. C'est un texte de Charles-Édouard Carrier publié sur le site lapresse.ca le 31 août. Donc, que faire quand on découvre un nid de guêpes? La guêpe sociale est l'une des 15 espèces de guêpes que l'on retrouve au Québec. Celle-ci construit des nids de papier ou des nids souterrains. Elle est organisée selon une hiérarchie avec une reine à la tête de la colonie, puis les femelles, les mâles et les ouvrières. La construction du nid débute habituellement au printemps et les occupants meurent à la fin de la saison avec l'arrivée du gel, à l'exception des jeunes reines fécondées qui, elles, survivent à l'hiver. Plus le nid est petit, plus il est facile de s'en débarrasser. Il faut donc garder l'œil ouvert. La présence quasi permanente de guêpes au même endroit où beaucoup de va-et-vient peuvent donner un indice sur la présence d'un nid. On recommande de faire régulièrement le tour de la maison pour s'assurer qu'elles ne sont pas en train d'établir leur quartier général chez vous. Les guêpes peuvent à la fois faire des nids au sol et des nids aériens. Dans les deux cas, la grosseur peut atteindre celle d'un ballon de basketball. Quand même assez impressionnant.
Oui, c'est du palace.
Oui. C'est assez... Oui, oui.
On n'a pas envie de se retrouver avec ça.
Non, non. En fait, le nid qu'on a chez nous, il est correct.
Il est tout petit, c'est ça. Alors ça, c'est André Payette qui nous dit ça.
Il y a une origine à ce sujet-là.
Oui, tout à fait. Il y a un message ici. C'est André Payette qui est du service de renseignement entomologique de l'Insectarium de Montréal qui nous dit ça. Un terrier abandonné, une corniche, une table à pique-nique sont des lieux privilégiés pour les guêpes cherchant à établir domicile. Un nid occupé par des guêpes présente un danger pour les humains et les animaux domestiques. Son élimination doit être menée avec beaucoup de prudence. Souvent, les gens nous écrivent pour nous demander, alors c'est toujours le spécialiste qui parle, comment faire pour se débarrasser du nid. Notre recommandation est simple, consultez un spécialiste.
Ah, oui?
Un seul nid peut contenir des centaines de guêpes et certaines espèces sont plus irritables que d'autres. Ça peut devenir très dangereux d'essayer d'enrayer soi-même le problème. Il n'y a pas lieu de prendre des risques, surtout lorsqu'un exterminateur peut accomplir cette tâche en quelques minutes du moment qu'il sait où se trouve le nid. Les guêpes meurent immédiatement. Alors, le spécialiste injecte un insecticide de contact dans le nid. Les guêpes meurent et on retire le nid. Par la suite, il est possible qu'on assiste au retour de quelques guêpes parce que celles qui étaient sorties au moment de l'extermination ne retrouvent plus leur nid.
Ils n'étaient pas au courant.
Non, ils ne savaient pas. Après quelques jours, elles auront disparu. Et comme il ne s'agit pas de reines, elles ne peuvent pas construire un nouveau nid. Pour un service du genre, ça tourne autour de 75 $ les services, les prix de ça. L'élimination du nid d'un nid dans une corniche, un nid souterrain ou un nid dans un mur de la maison, ça, c'est plus complexe et le service sera plus dispendieux.
Donc, on est-tu encore des messages?
J'ai toujours
un
message.
J'essaie de se régler des problèmes domestiques sous mes yeux ou dans mes oreilles.
J'ajoute une dernière chose. Si le guêpier ne présente pas de danger parce qu'il est suffisamment loin de la maison pour ne pas gêner les activités extérieures, il est préférable de le laisser sur place parce que les guêpes occupent une place importante dans l'écosystème. Elles contribuent à la pollinisation et s'alimentent de certains insectes de jardin nuisibles.
Alors, Yvan, vous aviez quelque chose à ajouter?
Oui, je remarque juste que dans ton article, Marie, tu parles de guêpes sociales.
Oui, tout à fait.
Oui.
C'est pour ça qu'on les appelle sociales, parce qu'elles construisent leur nid près des humains, peut-être. Alors, on va prendre une petite pause musicale, aller écouter le grand Georges Brassens nous chanter « Je me suis fait tout petit ».
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau. Quand elle me sonne, j'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout. Et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Georges Brassens, je me suis fait tout petit. Et on poursuit avec Christine Boucard qui nous parle photographie et conflits mondiaux, au fond.
Oui, en fait, je vais faire un petit peu le lien avec l'impact Néguère, justement, sur les enfants. Cela étant, ce que disait
Marie.
Cela étant, on ne peut pas lancer non plus dans ce débat ici, c'est assez important, mais à l'heure actuelle, là, il y a le World Press Photo donc, qui dure jusqu'au 27 septembre à Bon Secours, à Montréal. Allez-y, c'est à la fois des choses dramatiques, fortes, des photographies parfois difficiles, mais en même temps, il y a également des choses magnifiques, superbes, des moments qui sont saisis dans l'instant, de joie. Sur le sport. Je vais vous parler d'une entrevue avec le photographe de guerre, Jérôme Cecchini. Ce sont les conflits qui m'ont trouvé, dit-il. C'est un article pris dans la presse du 2 septembre. Le photographe français Jérôme Cecchini a été rencontré par Mathieu Perrault, donc de la presse. Il parcourt les zones de guerre depuis plus de 15 ans. Irak, Proche-Orient, Libye, Syrie, Ukraine. Ses photos font la manchette des pages internationales. Et il est l'invité d'honneur de l'exposition World Press Photo. Et il, je vais faire également le lien avec cette photo dramatique, donc la photo dramatique qui est sortie, enfin l'événement dramatique, je dirais. Comme le dit Jérôme Cecini, c'est l'actualité qui est dérangeante. Et pas forcément, c'est la photo l'est bien sûr, mais c'est l'actualité avec le petit garçon qu'on a, oui, qui a été photographié. Oui. Et c'est arrivé effectivement pendant cette exposition. Et l'exposition, elle porte le nom de « Dureté et beauté du monde ». Ou « Beauté et dureté du monde ». Donc, elle ne pouvait pas avoir un meilleur titre. « Comment en êtes-vous arrivé à la photographie de guerre ?» dit Mathieu Perrault, demande Mathieu Perrault. « C'est un accident, nous dit le photographe. Au départ, je n'étais pas du tout intéressé par les conflits. J'ai été au Kosovo en 1999. Petit à petit, on découvre qu'on se sent à l'aise. Ce sont des conflits qui m'ont trouvé, dit-il. Est-il plus facile de vivre de photos de guerre que d'autres types d'images ? Au contraire, répond-il, il est plus facile de vendre des portraits ou du magazine pur. Qu'est-ce qui vous met à l'aise, entre guillemets, dans la guerre ? Je ne veux pas dire que j'aime ça. Il y a deux choses, et là il dit des choses importantes. Tout d'abord, l'aspect altruiste. On veut donner voix à des gens qui n'en ont pas, être une courroie de transmission. C'est un facteur égoïste parce qu'en réalité on le fait surtout pour soi-même. Mais deuxièmement, il y a peut-être une curiosité, le désir de se frotter à des réalités difficiles, d'être un acteur témoin de grands événements. Vous écrivez dans votre biographie qu'adolescent dans votre Lorraine natale, vous avez été inspiré par Diane Arbus, Lee Frandler, etc. Ces trois photographes se sont, le troisième étant Mark Cohen, pardon, ces trois photographes se sont pourtant penchés sur des sujets sociaux aux États-Unis plutôt que sur l'étranger ou la guerre. Avec eux, j'ai compris que la photographie pouvait être écriture, langage, pas seulement enregistrer des documents bruts. Avec cette écriture photographique, demande Mathieu Perrault, comment vous situez-vous dans le débat entourant la vérité de nombreux conflits ? Par exemple, en Palestine, en Syrie ou en Ukraine. Et donc, on y arrive. C'est vrai qu'il y a plus de débats sur la vérité qu'avant, dit le photographe, probablement à cause des réseaux sociaux. Et effectivement, c'est l'un d'ailleurs des sujets, la photo le sujet post-photographique, la condition post-photographique, c'est le sujet du symposium, du mois de la photo, par contre, de la Biennale, dont l'ouverture officielle est aujourd'hui même, pendant un mois, à Montréal. C'est vrai qu'il y a plus de débats sur la vérité qu'avant, probablement à cause des réseaux sociaux. Avant, il n'y avait que la propagande. Ceci dit, je crois que de plus en plus, tous les médias se valent. Je me mets souvent à la place du Russe, qui regarde CNN, ou les médias français, où la Russie est à longueur d'émission traitée comme le méchant et l'agresseur. Et à Gaza, y a-t-il aussi deux vérités qui s'affrontent ? Et là, pour répondre par rapport aux photographies qui sont assez difficiles sur le Hamas, etc., et Israël, mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça comme photographe, demande-t-il. On nous dit qu'en montrant des photos d'enfants palestiniens morts, on fait le jeu du Hamas. Doit-on cacher ces photographies, demande-t-il. En fait, c'est le métier, donc le débat est ouvert. En parlant de photographies, donc, je vais vous en décrire une, puisqu'il a, il a été interviewé par une autre journaliste, Andréane Chevalier, qui a fait une interview dans le journal Métro. Jérôme Cecini a commenté certaines des photographies. La première étant la sienne, Dernier combat pour Maïdan. On y voit un militant qui reçoit la bénédiction d'un prêtre orthodoxe sur une barricade de Kiev, au cœur du mouvement du Maïdan. Alors c'est une photographie avec, c'est quand même assez surréaliste, on dirait un tableau complètement composé, pictural, presque peint. On voit un militant avec un bouclier, casqué, etc. Et tout d'un coup, on voit le torse qui surgit des décombres du prêtre orthodoxe avec une croix qui fait la bénédiction. Et il dit, c'était le 20 février 2014, la journée la plus violente des manifestations. Il y a eu 70 morts. Cela a conduit au départ du président de l'Ukraine, donc Jérôme Cecini, qui est donc de Magnum Photo. Il a pris cette photo pour le journal belge. Et il me disait qu'il avait aussi fait des photos très dures, bien entendu, qui témoignent notamment de l'écrasement du vol MH17. Et ce qu'il disait, c'est qu'il ne faut pas voir les photos comme étant dérangeantes, ce que je disais tout à l'heure, mais c'est la réalité qui l'est surtout. C'est dramatique.
Peut-être rappeler le WordPress photo.
Alors, il est jusqu'au 26 septembre au marché Bon Secours. Notamment, il est en nocturne le jeudi, vendredi et samedi jusqu'à minuit.
Thank you.
On a entendu la fin de votre intervention voilà. dans le micro. Alors, on sait que vous allez nous parler d'estime de soi.
Alors, je termine. J'ajoute une petite chose que Germain Duclos ajoute à propos de son ouvrage. Il dit « Entre 3 et 6 ans, les enfants doivent vivre de nombreuses expériences de réussite pour prévenir les problèmes de motivation et d'apprentissage scolaire. Il ne s'agit pas de ne pas faire d'erreurs normales. L'éducatrice, et moi j'ajoute le parent, doit donc leur apprendre à devenir des apprentis, /sages. C'est-à-dire des apprentis qui acceptent de faire des erreurs et de changer de stratégie afin d'acquérir de nouvelles habiletés, des connaissances. »
Bien, on va poursuivre avec une autre... Ah! Je ne savais plus si on allait entendre de la musique ou pas, j'étais plus certaine.
Nous sommes dans l'ambiance du direct.
On danse.
Voilà, exactement. Ce matin de première pour tout le monde. Alors, ben, quelqu'un d'autre? Oui, Yvan?
Moi, j'ai un petit quelque chose, évidemment, qui est relié au vélo. Savez-vous que la présence d'une station Bixi dans un rayon de 800 mètres fait augmenter la valeur d'une propriété de l'ordre de 2,7 %, selon une étude présentée par les chercheurs de l'Université McGill? Une station de métro est encore, pour le moment, pas mal plus efficace, avec une augmentation de la valeur de l'ordre de 7,3 %.
Oh, c'est intéressant bon parce qu'il me semble que j'avais vu quelque part que des gens s'inquiétaient, entre autres à New York peut-être, du contraire.
Oui.
Oui.
Et alors qu'en fait, ça augmente la valeur, la propriété. Oui. Une très bonne nouvelle.
Oui, je crois.
Alors, on poursuit encore avec Yvan.
Oui. Ailleurs dans le monde, c'est une version drive-in made in Paris. À la station de vélo en libre-service Vélib du 22 de la rue de la Chaussée d'Antin, il est possible d'attraper son lunch préalablement commandé à l'avance chez Vélib Exquis sans descendre de vélo.
Alors, on parle de séchoir à plumes. Perché sur un rocher, les ailes grandes ouvertes, l'air au-dessus de ses affaires, on parle d'un cormoran à aigrettes qui semble se faire dorer la couenne au soleil. C'est que la dernière plongée a laissé de l'eau dans son plumage, pas tout à fait étanche. On reconnaît facilement le grand oiseau aquatique à sa silhouette noire au corps trapu et au long cou en S. Son bec au bout crochu et ses aigrettes à peine visibles le caractérisent tout autant. Bien que l'eau du lac puisse le satisfaire, c'est surtout sur le littoral qu'il choisira de nicher, les îles Rocheuses l'attirant particulièrement. Une colonie peut compter jusqu'à 1500 couples. Après un déclin marqué dans les années 60 à cause des pesticides, les populations sont en nette progression, attisant même les craintes de compétition chez certains pêcheurs.
Eh bien, je vais vous remercier. Alors, merci Christine Boucard, merci Marie Dallande, merci Yvan Deslauriers. La semaine prochaine, vous, on vous revoit un autre jour?
Oui, on est ici jeudi.
Vous êtes ici jeudi prochain?
Non, jeudi prochain.
C'est plus tard que ça va changer.
Peut-être.
Alors,
peut-être.
À la prochaine, même si ça risque d'être Clotilde avec vous. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Tout le monde. Et puis, on continue notre tournée de l'actualité
merci,
après
Christiane.
La pause.
Merci.
Au revoir.